Alexandra Ben Saïd.
Nous achetons 25 000 bovins par semaine que nous payons toutes les semaines.
Mais allez voir cette vidéo, voilà le son marquant de la semaine, que dis-je marquant, stupéfiant. Il s'appelle Maxence, ce jeune homme, c'est le fils de Jean-Paul. D'ailleurs, jeudi dernier, à l'Assemblée, les députés de la commission éco attendaient plutôt papa, Jean-Paul Bigard, du groupe Bigard, la viande. Les éleveurs exagèrent-ils quand ils disent anonymement que Bigard, dans les négos commerciales, c'est une main d'acier dans un gant de fer ? À l'Assemblée, question polie sur le partage de la valeur, question insistante sur les comptes de l'entreprise. Pauvres députés qui voulaient de la transparence, ils ont eu Maxence.
Sur la question que vous évoquez, simplement, nous achetons 25 000 bovins par semaine que nous payons toutes les semaines.
Et voilà pour les comptes de l'entreprise Bigard. Beaucoup de sueur, hein, énormément de mépris. Dans le même registre, on a eu cette semaine les entreprises qui ne répondent pas aux invitations de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Morel et Prom et SSB, c'est leur nom, elle les a punaisés sur sa porte. Ça soulage, mais que peuvent vraiment les élus, l'exécutif? Lundi, on aura le plan social de Nokia. L'entreprise s'est-elle assise sur les engagements faits en 2015 au ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron? On pourrait poser la question à Maxence.
Je vous remercie pour ce rapport, j'en prends acte. Je prends acte de vos questions également.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Le Magéco, une œuvre collective avec des questions et des vrais morceaux de réponses dedans. Jérémy Younès est attaché de production. Coyenne Guyenne, réalisateur. Et ce matin, la technique, nous avons Élise Christophe qui nous accompagne. Auditrice, auditeur, épargnant, y voyez-vous clair sous la cascade d'annonces de la semaine? Le PEL, le livret A, le PFU, autrement appelé flat tax. Heureusement, c'est samedi et nous avons nos débatteurs pour nous éclairer. Bonjour Emmanuel Le Chypre de
bonjour
BFM Business.
Bonjour à tous.
Et bonjour Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour à tous.
Vous nous direz, messieurs, ce que le gouvernement veut faire de l'argent des épargnants. On va prendre aussi un peu de hauteur sur le dossier logement. Il est où le problème avec les aides au logement? Vous entendrez le reportage de notre monsieur Imo, Pierre Mariette. Et puis toujours du calme et du recul, ce sera le moment Foulon. Sandrine Foulon, bonjour, question sur le télétravail.
Et oui, Julien s'intéresse particulièrement au télétravail dans les ordonnances. Il veut savoir si son patron va enfin lui dire oui.
L'invité du Magéco, vous l'avez entendu, il a beaucoup été annoncé dans la matinale, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h, mais d'abord, le moment Cocorico, version écho.
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
Le Comité international olympique.
13 septembre 2017.
A simultanément élu la ville hôte en 2024 et la ville hôte en 2028. Paris 24, Los Angeles 21.
D'un mot, vous vous engagez ce soir, ça sera une archive pour plus tard. Hein. Oui. 7 milliards d'euros, pas plus le budget.
Pas plus.
Bruno Julliard.
Pas plus.
Premier adjoint à la mairie de Paris.
Une enveloppe budgétaire qui doit absolument être contrainte à 7 milliards d'euros.
On rappelle que Boston s'est désisté, Budapest s'est désisté.
Pierre Rondeau.
Rome s'est désisté.
Économiste.
Paris a maintenu la candidature, à l'inverse de beaucoup de villes qui se sont rendues compte que dans l'histoire des Jeux Olympiques, le coût de dépassement à chaque fois était exorbitant. Je pense par exemple à Pékin. Pékin, c'est 33 milliards. Sochi, pour les JO d'hiver, c'est 55 milliards.
Cette opportunité d'organiser les Jeux chez nous, à la maison.
Anne Hidalgo.
Ça va être de l'emploi, ça va être une dynamique économique.
Maire de Paris.
On a fait une étude très sérieuse. Les emplois sur les 7 ans qui viennent, c'est de l'ordre de 250 000 emplois sur notamment l'Île-de-France et les retombées économiques de l'ordre de 10 milliards 7.
Non, Daniel Simonet.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques ne relèveront pas d'une sobriété financière.
Conseillère de Paris, la France Insoumise.
Aucune étude n'a réussi à démontrer les retombées en termes d'emploi et de niveau de revenus des habitants. Au contraire, c'est au peuple à chaque fois, en retour, de payer les factures par plus d'austérité.
Et en matière de transport, les Jeux Olympiques vont être un formidable coup d'accélérateur.
Mathieu Hanotin.
notamment sur le Grand Paris Express.
Conseiller départemental PS de Seine-Saint-Denis.
Et dont la livraison sera par définition assurée avant 2024. Les JO, il faut vraiment le voir comme un catalyseur d'énergie.
French art de vivre. Valérie Pécresse, présidente LR du Conseil régional d'Île-de-France.
Le Stade de France, Roland-Garros, le Parc des Princes, le Vélodrome National. Everyone will be right in the action.
Emmanuel Le Chypre, il faudrait le voir en vidéo. Right in the action, c'est tout lui. Bon, cocorico ou pas cocorico avec ses JO?
Oui, cocorico, parce qu'on va pouvoir se concentrer sur les aspects sportifs et puis se décontracter sur les aspects financiers, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas énormément d'enjeux financiers autour de ces jeux. Alors, on nous dit, oui, tous les précédents, le coût a été multiplié par 2 ou par 3. Là, ce ne sera pas le cas, tout simplement parce que vous avez déjà plus de 90% des infrastructures qui sont construites. Grosso modo, il nous manque un village olympique et un centre aquatique. Bon, vous n'allez pas faire des milliards de dérapages là-dessus, il y aura peut-être des surcoûts sur la sécurité. Tout ce qui est relatif à l'accélération du projet Grand Paris, ce sera pas dans le budget des Jeux Olympiques. Donc voilà, donc côté dépenses, ce sera peut-être un peu plus que 7 milliards, mais sans doute pas énormément plus. Après, côté recettes, on a entendu des estimations de 10 milliards. Là, sans doute aussi très positive. Mmh. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que dans les grandes villes, comme Paris, par exemple, les gens n'attendent pas les JO pour venir à Paris. Et donc, vous avez ce qu'on a vu au Brésil, par exemple, comme phénomène. C'est-à-dire que les gens qui seraient venus à Paris, mais qui ne veulent pas voir le sport, ils ne viennent pas. Et donc, du coup, vous avez un espèce d'effet compensation, ce qui fait que, en gros, les 7 milliards de coûts sont peut-être sous-estimés, les 10 milliards de recettes sont sans doute surestimés. Donc, vous allez arriver à quelque chose qui sera autour de 0 plus, 0 moins, à 1 ou 2 milliards près. Mais franchement, décontractons-nous, profitons de ces jeux. Pas de catastrophe financière en vue, mais pas de super magot non plus à espérer.
On peut toujours compter sur vous pour avoir un regard différent et pas pareil. Christian Chavagneux, vous aussi, vous êtes
vraiment...
Différent et pas pareil, c'est vraiment la...
Différent et pas pareil.
C'est Emmanuel, c'est son image de marque.
C'est son image de marque.
Alors moi, je vais être
Christian,
un petit peu...
décontracté ou pas?
Ah ouais, complètement décontracté, mais de manière différente aussi.
Et pas pareil.
Et pas pareil. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les dépenses des JO, lorsque vous allez acheter votre place pour le stade, vous n'irez pas au cinéma ou au théâtre. Donc, va peut-être y avoir un petit effet comme ça de substitution. La fréquentation touristique, Emmanuel l'a dit, on a vu à Londres, on a vu au Brésil qu'il y a plein de gens qui seraient venus à Paris mais qui vont dire, voilà, ça va être le bazar, je n'y vais pas. Donc, est-ce que vraiment on va équilibrer ou pas? On n'en sait rien. Il y a l'absence d'effet d'entraînement. On sait, par exemple, que dans les hôtels, le prix des chambres, ça va monter au moment où il y aura les JO. Mais par contre, les salaires des gens qui travaillent dans les hôtels, ça va pas monter. Donc, ça va concentrer quelques recettes entre quelques mains. Vous avez le truc de Londres. Moi, j'étais stupéfait d'apprendre ça. McDo, par exemple, à Londres, qui est un sponsor officiel, autour du village olympique, vous n'aviez pas le droit de vendre des frites. Il y a que McDo qui pouvait vendre des frites. Vous pouvez payer avec votre carte Visa, c'est tout. Toutes les autres cartes de crédit étaient interdites. Pourquoi ? Parce que Visa était le sponsor officiel. Donc, on détruit les règles de la concurrence. Bah, c'est quand même un peu rigolo. Sur le plan fiscal, vous savez, on l'a vu avec l'Euro 2016 aussi, tous les organisateurs ont un petit paradis fiscal pour eux, quoi. D'accord ? Donc, ils vont avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent sans payer de fiscalité. Donc, voilà. On bouscule les règles de l'économie pour un résultat économique incertain.
C'est un peu le problème philosophique, hein, que c'est quand même des coûts publics et des profits privés.
Exactement.
Au final, quels que soient les sommes en jeu.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Alexandra Ben Saïd.
Bon, en tout cas, il y a un dossier sur lequel on n'est pas très champion, c'est la stabilité fiscale pour les épargnants. Emmanuel Le Chypre, Christian Chavagneux, des curseurs importants ont bougé cette semaine. Emmanuel, vous nous plantez le décor.
Oui, il faut rappeler quelle est la volonté du gouvernement, c'est de corriger un petit peu les défauts de notre fiscalité autour de l'épargne. Cette fiscalité aujourd'hui sur l'épargne, elle avantage clairement les revenus qui sont tirés des patrimoines immobiliers et ceux qui viennent des produits d'épargne peu risqués, c'est-à-dire tous les livrets réglementés, défiscalisés, livrets A, etc. Assurance vie, qui elle est investie principalement dans la dette d'État à quasiment 80%. Et à l'inverse, on a un taux d'imposition sur les dividendes et les plus-values qui est aujourd'hui extrêmement élevé au regard de ce qu'on observe dans tous les autres pays, ce qui fait qu'on a globalement une épargne qui n'est pas tournée vers
le
financement de l'économie. Pour planter les grandes mars, il y a à peu près 12 000 milliards d'euros d'épargne en France. Là-dedans, vous en avez les deux tiers qui sont de l'immobilier, et sur le tiers restant, vous pouvez le partager en trois, grosso modo, dont un tiers d'assurance vie, un tiers de livret réglementé. Donc vous voyez qu'il reste pas grand chose. là-dedans pour financer vraiment l'investissement et le développement des entreprises. Donc voilà, c'est ce que veut corriger le gouvernement en rendant notamment moins attractive l'assurance vie et tous les placements réglementés comme le livret A, le plan d'épargne logement, etc.
Et tout ça dans le contexte de la préparation du budget 2018 et donc avec des arbitrages, hein, Christian.
Alors ça, Macron et le gouvernement, ils vont effectivement, comme l'a dit Emmanuel, corriger cette fiscalité. Mais ils vont la corriger dans quel sens? Je vous prends un exemple, jusqu'à 7500 euros de patrimoine. Donc on n'est pas dans les pauvres pauvres. Hein. 7500 euros, on a quand même un petit peu d'argent de côté. L'essentiel de l'épargne, c'est quoi? C'est du livret A. D'accord? Ils ont 2% en placement financier. Donc vraiment, l'essentiel de leur épargne, c'est du livret A. Il y a une formule qui calcule le taux de rémunération du livret A. Et la formule, elle disait qu'au 1er août, ça devait monter à 1%. C'est à 0,75% aujourd'hui. Le gouvernement a dit non, on va geler à 0,75%. On sait très bien que l'inflation cette année et l'inflation l'année prochaine, puisque c'est un gel sur 2 ans, ça va être supérieur à 0,75%.
Un 2,
peut-être un 5, bon, on ne sait pas. En tout cas, c'est supérieur à 0,75. Donc, on mange le pouvoir d'achat des gens qui ont une épargne placée sur les livrets réglementés. Mettons que ce soit 1%, je vous la fais à 1%, d'accord? Il y a 250 milliards d'euros en gros sur les livrets A. Sur 2 ans, ça fait 1,2 milliard de perdus pour les plus pauvres. Mais à l'inverse, continuons la correction qu'Emmanuel réclamait. Là, on a corrigé l'épargne des plus pauvres. Vous aurez moins de sous. Maintenant, l'épargne des plus riches. Lorsque vous avez 2 millions d'euros de patrimoine et plus, vous êtes dans les 1% des Français les plus favorisés. Et là, vous avez les 2/3 de ces gens-là qui ont des placements financiers. Eux, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Eh ben, une niche fiscale supplémentaire sur l'ISF. Vous ne paierez plus d'ISF sur votre patrimoine financier et sur les revenus que vous allez toucher de ce patrimoine financier, vos actions, vos obligations, vos intérêts, vos dividendes, vos plus-values, etc. Là, on va ramener votre taux d'imposition à 30%. C'est bien plus haut aujourd'hui. Et le coût, il est estimé entre 1,5 et 4 milliards. Pour le gouvernement, 4 milliards pour l'OFCE. Et l'ISF, c'est entre 3 et 3,8 milliards. Donc, vous avez quoi? D'un côté, les pauvres qui vont perdre plus d'un milliard. De l'autre côté, les très riches à qui on va donner entre 5 et 8 milliards. C'est ce qu'Emmanuel appelle corriger notre système fiscal.
Emmanuel Le Chypre.
Alors, c'est le constat. Mais pourquoi il est fait ce constat? C'est pour corriger la dynamique qui est défavorable, encore une fois. C'est d'avoir une dynamique qui soit beaucoup plus favorable à l'investissement et aux entreprises, comme c'est le cas à l'étranger. Prenons cette fiscalité sur le capital. Donc on a
On va revenir. Oui, les 30%, c'est donc ça le PFU, oui, prélèvement forfaitaire unique.
Exactement.
Et ça vient à la place d'un maquis.
Qui serait ramené à 30%. Alors, il faut rappeler qu'en France, hein, vous avez quand même 54 niches fiscales.
Ouais,
donc c'est quand même très compliqué. Sur plusieurs dizaines de produits d'épargne. Là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une exception française qui est que la France surtaxe tout ce qui est revenu de placement, de plus-value sur les actions, de dividendes. Vous avez une imposition qui va jusqu'à 60% sur ces revenus-là. Quand vous regardez en Allemagne, vous êtes à 26%, en Italie aussi, 23% en Espagne, et il y a plein de pays où vous ne payez même pas de taxation sur les plus-values. L'étude de l'OFCE, justement, qui peut pas être soupçonnée d'être un think tank ultra-libéral, montre que le taux d'imposition marginal sur les dividendes, il est de 74,5%. Et c'est pour ça, parce qu'il faut juste expliquer le mécanisme en une minute, c'est pour ça que les entreprises françaises distribue autant de dividendes, ce qui scandalise souvent Christian. Parce que pour attirer des investisseurs et que ça leur rapporte finalement de placer leur épargne dans un produit risqué qui est l'entreprise, eh bien les entreprises françaises sont obligées de distribuer énormément de dividendes. Du coup, elles ont moins de ressources pour se développer. C'est aussi pour ça que les entreprises françaises sont plus endettées que les entreprises européennes. Et donc, il faut corriger ce défaut pour éviter d'assécher les entreprises par une fiscalité défavorable qui ne fait que profiter aux investisseurs étrangers qui, eux, profitent de dividendes très élevés, d'une fiscalité qu'ils ne subissent pas. Et c'est pour ça que cette taxe stable à 30% sur les revenus du capital, c'est un puissant moteur pour l'investissement et la croissance future et l'emploi,
donc,
évidemment.
Donc Christian, c'est vous qui n'avez pas compris,
ouais,
c'est 30%, c'est la simplicité.
Il
c'est
est
pour...
beau, il est intelligent, il est faux. Voilà. Donc je vais vous expliquer
pourquoi. Ce qui se passe partout dans le monde où il y a moins de chômage que chez nous, Christian.
Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc les riches, puisqu'ils sont moins taxés sur les revenus financiers, ils vont sortir de l'immobilier et ils vont aller mettre leur argent pour financer les entreprises et l'investissement. C'est ce que vient de nous dire Emmanuel. Alors les 1% les plus riches, ils ont 71% de leur patrimoine en placement financier. Les 30 000 Français qui sont dans les 0,1% les plus riches, ceux qui ont vraiment des grosses masses, c'est 84% dans les placements financiers. Est-ce que vous croyez qu'ils vont mettre tous les œufs dans le même panier? Ils ont déjà énormément de placements d'argent dans les placements financiers. Ils vont pas en rajouter. Je suis pas un grand spécialiste en placement, mais on met pas tous ces œufs dans le même panier. Or, ils ont déjà beaucoup de placements financiers. L'autre mécanisme qu'a décrit justement Emmanuel, c'est de dire les entreprises françaises, elles sont obligées de distribuer plus de dividendes que les autres, parce que comme les investisseurs sont plus taxés, ils doivent compenser. Et donc aujourd'hui, enfin plutôt demain, quand on aura réduit le taux d'imposition sur ces dividendes, elles pourront distribuer moins de dividendes parce qu'on sera dans la norme européenne. D'abord, celles qui vont diminuer moins de dividendes pendant que les autres le feront pas, elles trouveront plus d'investisseurs parce que tous les investisseurs vont sortir pour aller dans les entreprises qui vont distribuer des dividendes. Mais admettons que toutes les entreprises, on parle des grosses là, hein, les gros montants de dividendes, c'est les grosses entreprises. Admettons que l'ensemble du patronat du CAC 40 se dise, il faut que nous diminuions les dividendes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment ça va se traduire en investissement et en emploi, d'une part? Et si ça se traduit en investissement et en emploi, est-ce que ce sera en investissement et en emploi en France? Parce que tous ces grands groupes, on le répète à satiété, ils font l'essentiel maintenant de leur business, enfin une bonne partie de leur business, à l'étranger. Donc c'est pas du tout garanti que ça profite à l'économie française. Par contre, ça va sûrement profiter aux plus riches.
Donc Christian, ne croit pas au pari de ça va profiter in fine à tout le monde.
C'est pas gagné.
Je rappelle quand même à Christian, qui c'est vrai qu'il tape beaucoup Emmanuel sur les 1%. Les plus riches, c'est qu'un vrai pays pauvre, c'est pas un pays qui a beaucoup de pauvres, c'est un pays qui n'a plus de riches. Et d'ailleurs, une des autres réformes fiscales, c'est la réforme de l'ISF. Et il faut rappeler que dans cet ISF, on va rien toucher sur la partie immobilier et on va alléger la fiscalité sur tout ce qui est revenu financier. Il faut rappeler que cet ISF qui a fait fuir quand même beaucoup d'investisseurs, d'entrepreneurs à l'étranger, rappelez bien ce chiffre, hein, c'est plusieurs calculs, Christian Saint-Etienne l'a fait, la Fondation Concorde l'a fait, qui elle est une fondation assumée, libérale, hein, oui. il faut le dire. Mais grosso modo, le calcul, c'est que sur les 5 milliards d'euros que rapporte l'ISF chaque année, le manque à gagner provoqué par tous ceux qui sont partis, qui auraient pu investir en France, créer des emplois en France, générer des profits, investir en France, c'est 8 milliards.
Emmanuel, ça, c'est un autre débat.
C'est la même chose. Cette fiscalité dissuasive pour l'investissement et les entreprises qui, au final, c'est eux qui sont les créateurs d'emplois.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fiscalité dissuasive, c'est pour les gens qui ont un patrimoine immobilier, hein, si vous êtes chez vous, si vous avez un petit logement. Alors, c'est la totale. Ah, oui. Pas de baisse d'ISF. Le PL, le fameux plan épargne logement qui va être taxé. Le PEL, le plan épargne logement qui va être taxé à 30% dès la première année pour les nouveaux.
2018,
pas de baisse de la taxe foncière. La taxe d'habitation, on va la réduire un petit peu. C'est 22 milliards, mais la taxe foncière qui est 40 milliards, ça, on va pas y toucher. Donc, les propriétaires, eux, ils vont continuer à raquer. Et en plus, on introduit un rejet de l'impôt local parce que la majorité des propriétaires, ils vont continuer à payer la taxe foncière, peut-être un peu moins de taxe d'habitation. Mmh. Les locataires, eux, vont plus payer en grande majorité de taxe d'habitation. Et donc, ça veut dire quoi? Que pour les mêmes services publics, pour la même école, par exemple, locale, eh bien, vous aurez les propriétaires qui vont payer et pas les locataires. Les propriétaires vont dire, mais pourquoi moi je paierais pour un service public qui va à tout le monde? C'est la baisse du consentement à l'impôt pour les impôts locaux. C'est vraiment pas aller dans la bonne direction.
C'est une quasi... Oui, Emmanuel, c'est une quasi-révolution fiscale. Là,
oui,
c'est
en gros, il y a cette idée de dissuader, de décourager, de rendre moins intéressante cette épargne. Grosso modo, encourager fiscalement est peu risqué. D'où aussi la volonté de revenir en partie sur les avantages de l'assurance-vie, hein, puisque ça a été aussi une des grandes questions de la semaine. C'est quand même le placement chouchou des Français avec le livret A. Il faut juste rappeler qu'aujourd'hui, quand vous avez un contrat d'assurance-vie qui a entre 1 et 4 ans, vous êtes taxé à environ 50%. Quand vous avez entre 4 et 8 ans d'ancienneté, c'est 30%. Et quand vous avez plus de 8 ans, c'est 23%. Là, l'idée, c'est que tout sera ramené à 30%.
Au-dessus de 300 000 euros.
Non, 150 000. Enfin, 150 000 euros.
Par personne, 300 000 pour un couple.
Par personne. Et donc, effectivement, là où ce que craignent les professionnels de l'assurance-vie...
Alors, dites-nous.
C'est qu'évidemment, le placement soit moins attractif parce que sur les durées courtes, il y aura moins d'intérêt à le détenir depuis longtemps. Donc voilà. Donc eux, ils craignent pour... Mais grosso modo, toutes les études montrent que ça ne changera pas grand-chose.
Un vrai chamboulement quand même que toutes ces mesures fiscales distillées tout au long de la semaine. Christian Chavagneux et Emmanuel Lechypre, nos débroussailleurs de l'écho. Allez, on passe de la fiscalité, puissant aiguillon de la politique économique, des comportements individuels. Maintenant, un coup d'œil sur l'arme économique. Je parle des sanctions économiques. On ouvre le dossier Corée du Nord. Nouvelles sanctions votées par l'ONU, c'était en début de semaine. Hier, on a eu la réaction de Pyongyang avec un nouveau tir de missile. Comment contraindre la Corée du Nord? Les États-Unis en appellent à son partenaire, la Chine.
全球新闻，中国播报。各位好，欢迎收看这一节中国新闻。我们来看详细内容。
Bonjour Dominique André.
Bonjour Alexandra.
Dominique, vous êtes la correspondante permanente de France Inter en Chine. Alors, Washington voudrait donc que Pékin accroisse sa pression sur Pyongyang, notamment en arrêtant totalement de lui livrer du pétrole. Que dit-on chez vous, Dominique? Est-ce que c'est envisageable pour Pékin?
Non, parce que si la Chine ne veut pas d'une Corée du Nord nucléarisée, il n'est pas question pour elle d'asphyxier l'économie de son petit voisin, qui est son principal allié contre l'influence américaine dans cette région. La Chine livre tout le pétrole de la Corée du Nord. Un oléoduc traverse le fleuve Yalu, qui sépare les deux pays. La Corée du Nord est complètement dépendante de la Chine sur ce plan.
Dominique, à propos de commerce, vous revenez de Dandong, ça c'est la ville chinoise sur la frontière avec la Corée du Nord. Est-ce qu'il y a une baisse du commerce entre les deux pays depuis les sanctions ?
Alors, 70% du commerce entre la Chine et la Corée du Nord passe par la ville de Dandong. Dans les milieux du business, là-bas, on se plaint beaucoup des effets des sanctions de l'ONU, mais on voit aussi beaucoup de camions qui prennent le pont, qui enjambent cette fameuse rivière. Et là, pas mal de marchandises, comme les fruits de mer, les crabes et les crevettes, passent aussi la nuit. Tous ces produits sont sur la liste des sanctions de l'ONU. À Dandong, le commerce illégal, donc en dehors des sanctions, est vraiment une réalité. C'est ce que nous confirme ce spécialiste chinois de la Corée du Nord, le professeur Dong Xiaohe.
C'est sûr qu'il y a du commerce hors la loi, en dehors des résolutions de l'ONU. Il faut dire que les commerçants peuvent prendre des routes dangereuses pour faire leur business. Peu importe qu'ils soient nord-coréens ou chinois, ils sont prêts à perdre leur vie pour gagner $1 million. Ce phénomène existe, mais il faut dire que le gouvernement chinois a bien renforcé la surveillance de la frontière.
Alors sur les effets des sanctions de l'ONU, Vladimir Poutine disait récemment que la Corée du Nord ira jusqu'à manger de l'herbe, mais elle n'arrêtera jamais ses projets tant qu'elle ne se sentira pas en sécurité. On entend exactement le même avis à Pékin.
Chier, chier, Dominique André avec nous depuis Beijing. Allez, retour à Paris. Ce matin, dans le Maguecourt, on a décidé de zoomer sur les aides au logement. Où est le problème ?
Fabien Blanchard, consultant, formateur en entreprise. J'habite en Maine-et-Loire, dans une maison, à la campagne, avec mes trois enfants, seul. Père célibataire, parent isolé pour la CAF, voilà, avec mes trois enfants.
Votre logement, c'est un logement de combien de mètres carrés ?
Il doit faire à peu près 100 mètres carrés.
Et le loyer de combien ?
612 euros.
Vous gagnez combien ?
Bon, c'est fluctuant puisque je travaille en indépendant, consultant formateur en entreprise. Annuellement, l'équivalent, c'est à peu près 1600 euros.
Et vous touchez combien d'aide au logement ?
462 euros. Si la question est de savoir si je pourrais me loger d'une manière convenable, comme c'est le cas actuellement, sans les aides au logement, la réponse est non. J'ai déjà deux de mes enfants qui sont dans une même chambre. Donc une maison avec trois chambres, voilà, c'est convenable. Grâce aux aides au logement, sans les aides au logement, je tomberais dans une précarité certaine.
Dans le Maine-et-Loire, Fabien et ses trois enfants ne se posent donc pas de questions. L'allocation de la CAF, 462 euros, est nécessaire. Les APL, mais aussi les ALS, ça c'est pour le logement social, et l'ALF, l'aide au logement familial. Voilà l'ensemble des aides au logement, plus de 18 milliards d'euros redistribués ainsi. C'est une grosse enveloppe. Alors ces aides, trop chères, trop peu efficaces. Voilà ce que nous dit le gouvernement qui a annoncé que dans 15 jours, le 1er octobre, ce sera 5 euros de baisse. Les aides au logement aident-elles ou non les Français à mieux se loger ? C'est l'enquête de Pierre Mariette qui est aussi allé toquer chez Lucie.
Bonjour.
Enchantée.
Je m'appelle Lucie Leblanc, je suis retraitée et je loue un appartement dans le 10e arrondissement de Paris.
Et vous louez combien ?
780 euros par mois.
Et vous avez des revenus de combien ?
1259 euros.
Et là-dessus, vous touchez une aide au logement donc ?
Alors, en attendant que ma retraite soit à jour, j'avais le RSA et là j'avais 309 euros. Mais à partir de septembre, j'ai touché 57 euros.
Le gouvernement annonce une baisse de 5 euros à partir d'octobre. Pour vous, sur le montant de l'aide, du coup, ça fait une somme importante finalement.
Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas longtemps, là, il y a peut-être 5 minutes, j'étais avec ma tante et je lui disais que là, il me restait à ce jour 7 euros. Parce que j'ai le loyer, je paye des impôts. J'ai une mutuelle, parce qu'il faut la prendre, hein. Un prélèvement pour le gaz, l'électricité. Quand vous faites le calcul, à ce jour, il me reste 7 euros. Pour finir le mois, oui.
Les propriétaires ont-ils entendu l'appel d'Emmanuel Macron qui leur demande de baisser à leur tour les loyers de 5 euros par mois pour compenser la baisse des aides au logement? J'ai appelé Jean Perrin, le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Comment dire, il n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde.
Je voudrais quand même pas snobber le président de la République, mais si j'osais, je dirais que c'est une imbécilité. D'abord, les loyers suivent le marché et beaucoup de loyers en France baissent. Donc, je vois pas pourquoi les propriétaires iraient encore ajouter de la baisse à la baisse. Mais si on veut réfléchir un peu plus loin, l'État baisse de 5 euros les aides au logement. Il y a à peu près un locataire sur deux qui a une aide au logement. En demandant aux propriétaires de baisser de 5 euros les loyers, bah, chaque fois qu'il y aura une aide au logement d'économiser de 5 euros, il y aura deux loyers qui seront baissés de 5 euros, hein, puisqu'il y en a un sur deux seulement qui a l'aide au logement. Donc il y aura 10 euros de loyer en moins. 10 euros, ça sera 10 euros de revenus qui ne seront pas déclarés par les propriétaires, parce qu'ils ne les auront pas touchés. Comme les propriétaires payent en moyenne 50% d'impôt sur ce qu'ils encaissent, ça veut dire que l'État aura une perte fiscale de 5 euros. Donc d'un côté, l'État économisera 5 euros sur l'aide au logement et perdra 5 euros de fiscalité. Donc tout ça, c'est de l'agitation, de l'excitation, de la communication. Je crois que certains ont dit que le président de la République avait dit à un média « ça a été une grosse connerie ». Je reprends pas le mot, mais je crois que c'en est quand même une grosse.
5 euros pour un propriétaire, c'est pas forcément une somme énorme.
C'est 5 euros, c'est pas une fois 5 euros d'économie sur un café. C'est 5 euros tous les mois, ça fait 60 euros sur l'année, et pour plusieurs années, puisqu'une fois que le loyer est baissé, on connaît les mécanismes d'évolution des loyers. Je rappellerai que pour certains petits logements dans les zones détendues, il reste au propriétaire, après une année de location, à peu près 500 euros de revenus nets, donc après CSG, après impôt sur le revenu, après taxes foncières, hein, après travaux, après mise aux normes. Eh bien, quand on baisse de 60 euros un revenu de 500 euros, ça fait plus de 10%. Je ne sais pas si demain, les salariés, les journalistes, les députés sont prêts à baisser leurs revenus de 10% pour faire plaisir à M. Macron.
Voilà pour le logement privé. Et dans le logement social, qui capte à peu près la moitié des aides. Fuite dans la presse, les aides au logement baisseraient de 50 à 60 euros par mois, mais le gouvernement affirme qu'il n'y aura pas de baisse des aides sans diminution des loyers du même montant. 1,5 milliard d'économies pour l'État, mais aussi 1,5 milliard de moins pour les bailleurs sociaux.
Frédéric Paul, délégué général de l'Union sociale pour l'habitat. Bah d'abord, on est extrêmement surpris de la brutalité, de la violence et de la rapidité avec laquelle le gouvernement, le président de la République probablement, s'attaque, débarque sur le dossier du logement social. On va baisser les loyers et la baisse des loyers, les locataires en réalité n'en bénéficieront pas puisqu'elle sera immédiatement captée par le budget de l'État pour diminuer les APL. Et puis les organismes d'HLM disposant de moins de moyens, ce sont en réalité les dépenses d'entretien du patrimoine, de gestion de proximité qui se dégraderont. Donc le locataire à la sortie n'aura pas de baisse de loyer et une qualité de service qui se dégradera. On est dans un secteur administré. Le loyer HLM, c'est un résultat. Ce n'est pas un prix fixé par le marché. Si on veut baisser le loyer, et pourquoi pas, il faut donner des garanties de long terme, sur 30 ans, 40 ans, selon lesquelles la baisse qu'on va faire, par exemple, sur les annuités qu'on rembourse à la Caisse des dépôts, cette baisse sera durable et garantie pendant 30 ans. Or, on est aujourd'hui dans l'incapacité de nous donner des garanties sur le fait que ces allègements seront des allègements durables. Si on bouscule ça, on créera un arrêt de la production, ou au moins un ralentissement de l'entretien, et on fera courir aux collectivités locales qui garantissent les 140 milliards d'euros que nous devons, on fera courir un risque de mise en jeu de leurs garanties. Ça veut dire que les collectivités locales se méfieront, se diront que le système est devenu dangereux, et elles ne garantiront même plus nos nouvelles opérations.
Direction le ministère de la Cohésion des Territoires. J'ai rendez-vous avec Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, qui sort d'une réunion de préparation du prochain plan logement du gouvernement. Inquiétude pour lui aussi et confusion.
Alors, franchement, il y a quelque chose qui est un peu incompréhensible. Lundi, on est avec le président de la République à Toulouse pour lancer le plan Logement d'abord, qui s'adresse, lui, aux ménages les plus pauvres, vraiment très défavorisés, sans logement, sans domicile fixe, très mal logés, etc. Nous, on dit au gouvernement, ce plan Logement d'abord, il est très intéressant. Mais on a en tête tout le reste. Si, via le plan logement d'abord, vous sortez des personnes du mal logement, mais que simultanément, vous fragilisez des ménages à cause d'une baisse des APL ou à cause d'une fragilisation du modèle du logement social, eh ben, de l'autre côté, on va avoir plus de mal logés, plus d'impayés de loyers, plus d'expulsions locatives, donc plus de difficultés dans le logement.
J'en ai avec Pierre Madec.
Alors au final, que faut-il retenir de cet argument aide au logement trop cher et trop peu efficace? J'ai demandé à Pierre Madec, économiste à l'OFCE.
Alors sur le trop cher, on ne peut pas dire ça. Il y a eu des déclarations récentes qui visent à démontrer que les APL auraient doublé ces dernières années. Quand on regarde les chiffres, en fait, les APL, c'est environ 1% du produit intérieur brut sur très longue période, sur les 20 dernières années. Sur le caractère inefficace des aides personnelles, c'est aussi une déclaration plutôt erronée, puisque quand on regarde une fois de plus les données de l'INSEE, il y a aussi un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui le montre, c'est l'une des prestations sociales les plus redistributives du système socio-fiscal français, c'est-à-dire qu'elle prend très bien en compte le revenu, elle a un impact très positif sur la baisse des taux d'effort des ménages qui la touchent, ça réduit le taux de pauvreté, ça représente en gros 20% du niveau de vie des ménages appartenant au premier décile de niveau de vie, donc c'est-à-dire les 10% les plus pauvres. Et les études économiques mettent en évidence que les APL ont contribué à l'amélioration de la qualité du parc pour les ménages les plus modestes. Donc oui, elles sont plutôt efficaces. Le fait est qu'elles sont en effet de moins en moins efficaces du fait des économies budgétaires successives qui ont été faites sur le budget alloué aux aides personnelles. Quand on étudie l'efficacité des aides à la pierre, on a certaines aides qui ne fonctionnent pas. C'est les aides plutôt à l'investissement privé, type incitation à l'investissement locatif, donc c'est les celliers, les Duflo, les Pinel, ou les dispositifs d'aide à l'accession privée, comme le prêt à taux zéro, par exemple. L'objectif d'un dispositif comme le dispositif Pinel, c'est de permettre aux classes moyennes de se loger et d'orienter l'épargne des ménages vers la production de logements en zone tendue. Il s'avère qu'on n'est pas capable de produire suffisamment de logements en zone tendue. Il s'avère qu'on n'arrive pas à loger les classes moyennes parce que on a des plafonds de loyers et de ressources qui sont très très élevés pour ce type de dispositif. Et qu'en plus, c'est des dispositifs qui coûtent très cher. Une génération de Pinel, c'est 1,8 milliard d'euros qui court sur une dizaine d'années. Donc c'est plutôt sur ce type de dispositif relativement coûteux et relativement inefficace qu'il faudrait réformer, en tout cas à court terme, pour justement créer ce choc d'offres dont tout le monde souhaite l'arrivée.
Quel est exactement le problème avec les aides au logement? C'était le dossier de Pierre Mariette.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Il est 10h45 et c'est le Mag Écho sur France Inter. Mon invité était à Bercy de 2012 à 2014. Depuis, il est le commissaire européen aux affaires économiques et financières, également en charge de la fiscalité. Bonjour Pierre Moscovici.
Bonjour.
Alors, la réforme de la politique du logement, les ordonnances travail, une quasi-révolution fiscale. Le FMI a félicité Emmanuel Macron cet été, l'OCDE cette semaine. Que peut dire, qu'en pense le commissaire européen Moscovici?
La Commission européenne a ses propres critères et la Commission européenne regarde la France faire ce qui doit être fait. Au fond, il y a deux points d'approche pour nous. Il y a d'abord la réduction des déficits. Et sur ce plan-là, j'attends que 2017 puis 2018 permettent à la France de sortir enfin de la procédure de déficit excessif. Je rappelle que il y avait pratiquement tous les pays de la zone euro étaient en déficit excessif en 2011. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux, l'Espagne et la France. J'ai confiance dans le fait que la France puisse sortir de la procédure de déficit excessif. Le président s'y est engagé. C'est important parce que c'est un signal de crédibilité économique et aussi de volonté politique qui permet à partir de là d'embrayer sur les réformes de la zone euro. Plus la France est efficace et crédible chez elle, plus les propositions ambitieuses que le président Macron s'apprête à faire après les élections allemandes retrouveront notamment de ce côté-là une audience. Et puis la deuxième chose, c'est en effet les réformes structurelles, celles qui permettent de muscler la compétitivité de l'économie française. Les réformes sont attendues. La France a besoin notamment d'enrichir son capital humain, d'améliorer le système éducatif, la formation professionnelle.
Donc tout ça va dans le bon sens. C'est ce que vous êtes en train de nous dire?
On va attendre d'avoir l'ensemble. Je vais prendre un exemple sur le code du travail. Je ne vais pas me prononcer parce que ce n'est pas à nous de dire quelle réforme il faut faire et comment. Ni sur la pertinence, ni sur la manière dont c'est fait. Mais il est nécessaire de réformer le marché du travail. Parce que quand un pays réforme son marché du travail, à ce moment-là, on n'a plus ce qu'on appelle un marché du travail d'insider. On n'est pas dans un entre-soi. On peut y entrer, on peut aussi en sortir. Mais la réforme ne prend sens que dans un ensemble. S'il y a à la fois aussi une réforme de l'assurance chômage et surtout une réforme de la formation professionnelle. Si on veut créer ce que les Danois ou les Suédois ont appelé jadis une flexi-sécurité, alors il faut les deux volets, la flexibilité et la sécurité. Moi, je dirais qu'il y a, un dessin qui est un dessin clair, mais après, comme on dit, le diable est dans les détails.
Pierre Moscovici, je reviens sur les déficits. L'ambition du gouvernement, c'est d'être à 3% cette année, c'est-à-dire au seuil acceptable, et à 2,7% de déficit dès l'année prochaine. Aller aussi vite, aller aussi en dessous du seuil acceptable, ça c'est ce que demande Bruxelles ou c'est ce que demande Berlin ?
Ni l'un ni l'autre, c'est le simple bon sens, et ça va pas si vite, vous savez. Quelle est, d'après vous, la moyenne des déficits dans la zone euro ? 1,3%. Le débat sur les 3%, c'est en train de devenir un débat purement franco-français. D'ailleurs, il faudra qu'une fois que les 3% sont franchis, et faire 0,3 en un an avec une croissance qui heureusement sera bonne, parce que on va être au-dessus des 1,7% prévus. On les a déjà presque atteints à ce stade de l'année. Et je pense que la croissance, je parle pas de la France, je parle de la zone euro. On verra pour la France, mais ça se translate. La croissance de la zone euro devrait être à 2% cette année, ou autour de 2%. On va ajuster ça d'ici à novembre. Avec ça, et avec un quantum d'économie raisonnable, on peut en effet faire baisser les déficits des 0,3. C'est pas une vitesse stratosphérique, mais c'est un vrai effort. Alors, je rappelle que en théorie, la France doit aller vers 0,5 dans le quinquennat, dans les 5 ans qui viennent. Il y aura aussi une programmation pluriannuelle des finances publiques. Il faut qu'on apprenne à raisonner en France, comme le font tous les autres pays, sur ce qu'on appelle les déficits structurels, c'est-à-dire les déficits, non pas sur le chiffre mythique des 3%, c'est pas, on est au-dessus, c'est mal, on est en dessous, c'est bien, c'est plus compliqué que ça. Il faut baisser les déficits qui se créent indépendamment de la croissance, les déficits structurels. Et donc, c'est pour ça que je disais que notre regard à nous, il porte sur deux choses, réduire les déficits, allons dans ce sens-là, que la France sorte de la pression du déficit excessif, et j'ai confiance, et puis faisons des réformes structurelles qui permettent aussi d'avoir des économies structurelles et à la France d'atteindre à la fin le niveau de déficit qui est celui de la zone euro, parce que le vrai enjeu d'ailleurs ça, c'est de réduire la dette publique. Si vous avez des déficits structurels qui continuent d'augmenter, alors la dette publique ne baisse pas. Et nous sommes à 80, nous sommes un des derniers pays où la dette publique continue d'augmenter légèrement.
Alors vous êtes français, je vais en profiter. On s'était dit avec les ordonnances travail, Macron 1, syndicat 0. Là, on va avoir le 10 octobre, ce qui ne s'est pas produit sous les deux derniers quinquennats. Tous les fonctionnaires appelés à défiler par tous leurs syndicats, appel unitaire. Donc, qu'est-ce qui se dit le français, ancien ministre socialiste Moscovici? C'est là que les choses sérieuses commencent?
Là, je me réfugie prudemment derrière la casquette du commissaire européen, car je ne peux pas et je ne veux pas interférer davantage dans le débat interne et politique français.
Alors, on revient à l'économie. Vous l'avez dit, 2%
mais
de croissance.
Mais il m'arrive de me poser des questions quand même. Le citoyen existe encore.
Mais il ne veut pas nous faire partager son sentiment. Alors là, vous
mais
en dites
reste,
trop
il
pas assez.
Il reste un homme privé aussi, qui a un devoir de réserve.
Bon, alors, on passe à l'économie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous nous dites la croissance, ça sera autour de 2%. Les Français, eux, ils savent qu'ils n'ont pas récupéré leur niveau de vie d'il y a 10 ans, d'avant la crise. Est-ce que le commissaire européen nous dit « ça va aller de mieux en mieux » ou est-ce qu'il nous dit « la reprise est trop molle » ?
La reprise est vraiment là. Vous savez, c'est la 5e année consécutive de croissance positive. Mais c'est vrai que ça fait un an et demi qu'elle se voit. Elle se voit parce que le niveau de croissance que nous atteignons commence à devenir vraiment respectable. Nous avons une croissance qui est aujourd'hui égale ou supérieure à celle des États-Unis. Ça ne s'était pas produit depuis 10 ans. Deuxièmement, et ça aussi c'est une bonne nouvelle, c'est une croissance qui crée des emplois, beaucoup plus qu'au cours des 10 dernières années. Donc nous allons, je l'espère, retrouver dans les 2 ans qui viennent les taux de chômage que nous connaissions avant la crise, mais qui étaient déjà beaucoup trop élevés. Et donc, je ne veux pas comme ça paraître autosatisfait, je ne veux pas dire tout va bien. D'abord, la croissance, elle ne va pas naître comme cela.
Il faut, est-ce que l'Eurofort vous inquiète?
Attendez, il faut l'entretenir, cette croissance. Ce qui fait la force de la croissance aujourd'hui, c'est qu'elle est auto-entretenue, c'est qu'elle ne dépend plus autant de l'extérieur. Mais pour ça, il faut toujours des réformes, il faut toujours de la compétitivité. Et on en parlera peut-être, il faut aussi une zone euro qui soit plus tournée vers la croissance, qu'on ait une véritable politique économique commune qui nous manque encore aujourd'hui. Et notamment, il y a un déficit dont l'Europe souffre, qui est un déficit d'investissement. C'est ce qu'on avait voulu faire avec le plan Juncker, mais il faut investir davantage dans l'économie de demain.
Mot sur l'Eurofort.
Ben, l'Eurofort, on le regarde. En même temps, je n'ai pas de commentaire à faire parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui gère notre politique monétaire.
Vous êtes commissaire, ça vous inquiète ?
Eh bien, d'abord, on a connu des épisodes de cette nature dans le passé, avec y compris les niveaux de l'euro qui étaient plus forts qu'aujourd'hui. Et deuxièmement, ce que je note, c'est qu'à ce stade, non, ça n'a pas d'impact sur notre croissance, ça ne pénalise pas notre commerce extérieur. Mais tout l'enjeu derrière ça, c'est pas tellement, ou pas seulement, le niveau de la monnaie, c'est surtout la force de l'économie, la compétitivité de l'appareil productif. Donc, évidemment, j'imagine que la Banque Centrale regarde ça, mais qu'il n'y a pas de sujet de préoccupation à ce stade.
Pierre Moscovici, je voudrais vous emmener sur l'actualité, sur la fiscalité des GAFA. La France a une proposition, on a l'impression qu'elle veut mettre un coup de booster. Elle est en train d'en parler, la France, avec les ministres de l'économie à Tallinn, en Estonie. Il faudrait taxer les Google, les Facebook et tous les autres sur leur chiffre d'affaires. Vous en pensez quoi ?
Alors, première chose, c'est un sujet qui est un sujet majeur, parce qu'on ne peut pas avoir tout un secteur de l'économie qui échappe peu ou prou à la taxation ou à la fiscalité. Et le mot d'ordre de la Commission, le mien comme commissaire à la fiscalité, il est très simple, c'est les entreprises doivent payer leurs impôts là où elles créent des profits. Ça vaut pour les entreprises classiques, ça doit valoir pour les entreprises numériques. Tout à l'heure, j'entendais parler d'Airbnb, mais pensez à un site comme Booking.com qui prélève 20% sur chaque nuitée, mais comme il n'a pas d'établissement en Europe... comme
société néerlandaise possédée par une entreprise américaine.
Mais qui utilise aussi, en effet, des contenus européens, etc., et qui paye quelques centimes par nuitée. Ça n'est pas possible, ça n'est plus acceptable. Donc, que faire ? Je me réjouis d'abord qu'il y ait une proposition de plusieurs ministres des Finances à l'initiative de la France, qui soutient les travaux qui existent déjà dans le cadre du G20, dans le cadre de l'OCDE, et qui soutient aussi une proposition que fait la Commission européenne, qui, à mon avis, est la bonne, qui est une assiette commune consolidée sur l'impôt sur les sociétés. Alors, après, là aussi, le diable est dans les détails. Que va faire la Commission ? Un, nous allons inciter à continuer à travailler dans le cadre du G20 et de l'OCDE pour avoir des standards qui soient mondiaux, parce qu'il ne faut pas agir seul dans son coin. Deux, il faut réfléchir sur ce qu'est la base taxable. Le chiffre d'affaires est une option. Il y en a d'autres. Il y a le bénéfice, il y a aussi le travail sur ce qu'on appelle la présence digitale, arriver à reconstituer, au fond, un vrai chiffre d'affaires digital. Trois, nous allons, après ce Conseil des ministres d'aujourd'hui, et avant un sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient à Tallinn le 29 septembre, donc dans les jours qui viennent, mettre sur la table toutes les options, et il y en a plusieurs. Il y a les plus globales et il y a les plus restreintes.
Mais vous n'avez pas envie que certains avancent tout seuls ?
Ça,
la France, les Allemands.
Mais c'est pas ce que je ne fais pas du tout ce reproche à la France et à l'Allemagne. Elles proposent d'avancer ensemble. Je dis simplement que si on n'y réussissait pas, il faudrait pas envisager des taxations nationales parce qu'à ce moment-là, on créerait des paradis numériques pour les uns, puis un enfer administratif pour les autres. Mais il faut trouver, et ça, j'y insiste, la bonne mesure. Et là-dessus, je pense que l'AXIS, l'assiette commune consolidée sur l'impôt sur la société, a un avantage, c'est que c'est une
ça,
mesure
c'est
structurelle.
Solution.
Parce que si on crée juste une taxe sur les chiffres d'affaires, le risque, c'est le seuil. Comment faire en sorte que les start-up ne soient pas concernées. L'autre risque, c'est la double imposition. Il y a l'impôt sur les sociétés, il y aurait cette taxe-là. S'il faut le faire, il faut le faire. Et la Commission sera disponible pour avancer. Mais avec l'AXIS, vous avez un seuil, c'est 750 millions d'euros, donc ça concerne de grosses boîtes multinationales. Vous avez un critère qui est le bénéfice et vous avez quelque chose qui permet d'éviter les transferts de profits.
On y sera quand, Pierre Moscovici ?
On y sera quand les États européens le veulent. Vous savez, la Commission a déjà fait cette proposition. La Commission propose, les États disposent. Mais là, j'attends que le Conseil d'aujourd'hui, que le sommet européen du 29 nous dise vers où on va. Nous allons mettre toutes les options sur la table. Après la guidance qui nous sera donnée par les chefs d'État de gouvernement ou par les ministres, eh bien nous avancerons, nous ferons une proposition.
Et il faut
aller très vite.
Et pour l'instant, c'est toujours la règle de l'unanimité.
Oui, mais il faudra un jour passer à la majorité qualifiée. Il n'y aura pas d'harmonisation fiscale, il n'y aura pas d'Europe sociale suffisante tant qu'on ne décidera pas à la majorité, tant que le veto d'un seul peut bloquer la volonté de tous.
Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, merci d'avoir été sur France Inter.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon.
Sandrine, on passe aux coulisses du monde du travail. Julien travaille dans un service marketing à 30 km de son domicile. Il a bien lu que les ordonnances réformaient aussi le télétravail. Son entreprise va-t-elle enfin lui dire oui ?
La grande nouveauté, Julien, c'est que votre employeur devra justifier son refus. Sur quel motif ? On ne sait pas encore, mais votre chef ne pourra plus vous répondre. Le télétravail, c'est pas mon style de management. Si votre boulot n'exige pas d'être présent pour servir des clients, s'il n'y a pas d'obstacle technique majeur à ce que vous puissiez travailler chez vous, tranquille en survêt molletonnée, il faudra une bonne raison pour dire non. L'employeur ne pourra pas non plus prétexter des problèmes d'assurance si vous glissez sur le carrelage. Les ordonnances créent une présomption d'accident du travail en cas de pépin pendant les heures de télétravail. Julien, vous pourrez aussi plaider la simplicité. Plus besoin de signer un avenant à votre contrat de travail, ce qui décourageait les entreprises. La direction pourra signer un accord avec les syndicats ou élaborer une charte. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, le gouvernement incite employeurs et salariés à trouver une solution par tous les moyens.
Mais comment s'assurer, Sandrine, que le télétravail va se dérouler dans de bonnes conditions?
L'avantage de la simplicité, c'est que le travail à la maison, occasionnel, aura plus de chances de se développer. En cas de grève, de panne de nounou, d'enfants malades, de pics de pollution, on pourra envoyer un simple mail à son chef et, s'il est d'accord, rester travailler chez soi. Même chose, Julien, si vous avez besoin de vous concentrer loin des collègues pour finir un dossier. Le problème, c'est la frontière entre l'occasionnel et le régulier. Une entreprise a tout intérêt à formaliser les conditions, les métiers éligibles ou non, les horaires, les moyens de contrôle. Un cadre clair permet d'être plus équitable, de limiter le télétravail à la tête du client. Et puis les ordonnances introduisent la nécessité de mesurer la charge de travail. Tout écrire noir sur blanc, c'est aussi l'occasion d'articuler le télétravail avec le droit à la déconnexion, qui normalement s'applique depuis janvier. Mauvaise nouvelle tout de même, la future loi devrait supprimer l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les coûts induits par le télétravail, la connexion internet, l'électricité, le chauffage. Dans leurs accords déjà signés, les entreprises remboursent même le coût d'une bonne chaise de boulot. À l'avenir, les plus radines pourraient être tentées d'économiser sur les surfaces de bureau, le pass Navigo ou les tickets resto, sans débourser un copec pour le confort du télétravailleur.
Sandrine Foulon, Mavioulou.